Aujourd'hui et demain, dans Affaires Sensibles, l'histoire en deux épisodes, un drame oublié, la pire catastrophe de la marine civile française par temps de paix, le naufrage du paquebot Afrique. Au matin du 11 janvier 1920, le paquebot Afrique, donc, fleuron de la compagnie des chargeurs réunis, débouche de l'estuaire de la Gironde pour rejoindre l'océan. L'immense navire met le cap au Sénégal, première étape de son voyage pour relier les principales cités portuaires de l'empire colonial français. À son bord, voyageurs et marchandises, pour un trajet de routine, un itinéraire sans difficulté apparente, en tout cas pour un équipage expérimenté. Pourtant, le paquebot Afrique n'atteindra jamais sa destination. Pire, il va disparaître quelques heures plus tard, lors d'une nuit de tempête dans les eaux du golfe de Gascogne. Sur les 602 personnes qui avaient pris place à bord, seules 34 survivront. Durant le récit, vous entendrez des archives extraites de l'excellente série documentaire « Les oubliés du paquebot Afrique » de Clémence Marie et François Teste, diffusée sur France Culture. Notre invité aujourd'hui, en duplex de France Bleu La Rochelle, Roland Mornay, ancien capitaine de navire à l'Ifremer. Il est l'auteur d'une enquête sur cette affaire. Il a d'ailleurs écrit le seul ouvrage consacré à cette histoire, un livre intitulé « La tragédie du paquebot Afrique », réédité en 2019 aux éditions Le Geste. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA et avec Retro News, le site de presse de la BNF. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Vendredi 9 janvier 1920, port de Bordeaux. Depuis les premières heures du jour, nappes de brouillard et vent froid balayent les rives de la Garonne. Sur le quai des Chartrons, dans un mélange de gestes mécaniques et de cris, des dizaines d'hommes portant gilets et bérets sombres s'affairent autour d'un gigantesque navire, la Coque d'Acier, stationnée le long du quai. Les dockers, fourmis ouvrières du port, chargent le charbon, les vivres et les quelques 500 tonnes de marchandises à bord de ce paquebot de 120 mètres de long. Sur les flancs de sa coque et sur sa poupe, son nom est peint en lettres noires. L'Afrique, oh, un nom tout simple pour ce navire qui appartient à la prestigieuse compagnie maritime des chargeurs réunis. Sur sa cheminée jaune qui surplombe les trois étages de ses cabines, on distingue cinq étoiles peintes en rouge en référence aux cinq continents que dessert l'entreprise maritime. Dans l'opinion, la compagnie des chargeurs réunis est réputée pour sa ponctualité et son sérieux. Chez les marins, en revanche, elle est surtout connue pour son intransigeance, d'où le surnom que lui ont donné les marins, Compagnie Marche ou Crève. Côté technique, le paquebot Afrique est un navire récent. Construit en Angleterre en 1907, sur les plus hauts standards techniques de l'époque, il a beaucoup navigué. Il convoie des marchandises, il transporte des passagers, il ne dispose d'aucun armement. Sur son registre de navigation, compte en 13 ans de service un total de 58 voyages entre l'Europe et le continent africain vers les principaux ports des colonies de l'Empire français. Des trajets réalisés sans problème, malgré parfois une météo capricieuse, mais malgré aussi le risque de torpillage par des sous-marins allemands au large lors de la Grande Guerre, les fameux U-boat. Mais voilà, avant même son départ, l'Afrique connaît cette fois quelques soucis techniques. Depuis plusieurs mois, dans les bistrots du port, des mécanos relaient la rumeur selon laquelle le navire serait fuiteux. Comprenez qu'il y aurait toujours un peu d'eau de mer qui rentrerait dans sa cale, ce qui nécessiterait de pomper à l'aide de machines. D'ailleurs, durant ces cinq dernières années, l'Afrique est restée à quai à Bordeaux pour subir d'importants travaux. La compagnie des chargeurs réunis a réglé une facture de plusieurs centaines de milliers de francs. Officiellement, pour remplacer et moderniser les chaudières du navire, officieusement, peut-être pour y faire autre chose. Quoi qu'il en soit, après avoir été inspecté par le Bureau des Affaires Maritimes, le paquebot Afrique est jugé apte à prendre la mer. Son prochain départ est fixé ce soir, raison pour laquelle les dockers s'agitent afin de mettre le bateau en état d'épareiller. À la barre de l'Afrique, on trouve le commandant Antoine Ledu, marin expérimenté, calme. Ce breton de 43 ans, à la large moustache et aux états de service irréprochables, jouit d'une solide réputation. Il a le respect et la confiance de tout son équipage. C'est un chef charismatique. Après une longue carrière de près de 2 décennies à bord de navires de la marine marchande et de transport de passagers, qui lui ont fait sillonner différents océans du globe, le capitaine Ledoux a pris le commandement de l'Afrique il y a un peu plus d'un an. De son navire, on connaît les forces et les faiblesses, lui aussi, même personne. Du trajet qu'il a à parcourir pour rejoindre Dakar au Sénégal, première escale du paquebot sur le continent noir, il connaît les dangers et les pièges à éviter. Pour manœuvrer les 5400 tonnes du paquebot, Ledoux dispose de 125 hommes sous ses ordres. À ses côtés, son second, Eugène Corée, lui aussi fort d'une grande expérience en mer, tout comme d'ailleurs le maître d'équipage Jacques Corlouer. Au micro de Clémence Marie, le petit-fils de Jacques Corlouer, Luc, explique ces liens de proximité qui unissent l'équipage du paquebot Afrique.
Et là, à bord du bateau, ils étaient, oui, une bonne quinzaine de papoles, et ils se connaissaient tous, et depuis longtemps. Un exemple, le commandant de bord s'appelait Ledoux, le capitaine Ledoux, et il connaissait très bien Jacques Corlouer, et ils se tutoyaient, mais jamais en présence d'un membre de l'équipage. Donc ils se voyaient dès lors qu'ils étaient sur la passerelle et qu'il y avait du monde à bord.
En fin d'après-midi, les premiers passagers embarquent à bord du paquebot par une longue passerelle blanche. Sur chacun des billets des 285 personnes qui s'apprêtent à faire le voyage à destination de l'Empire colonial, on peut lire ce message de la compagnie qui en dit long sur l'époque et sur les dangers d'une telle aventure. Il est marqué « À vos risques et périls ». 100 ans pile avant notre société contemporaine de la prévention obsessionnelle, c'est assez saisissant. Au même moment, la grue du navire continue, elle, de charger dans les cales une cargaison très hétéroclite. On y trouve des armes à destination des soldats français, des vivres et provisions pour toute la durée de la traversée, plus loin des sacs de courrier postal, divers matériaux, et enfin, on aperçoit des bouteilles de champagne, plusieurs caisses de moët et chandon. Précisons en effet que ces hommes et ces femmes qui partent aujourd'hui à destination d'un autre continent ne sont pas des touristes, non. Ce sont pour la plupart des administrateurs de la France coloniale. D'autres sont des entrepreneurs ou des marchands. Ce voyage est donc pour eux la première étape d'une grande ambition. Rejoindre, conquérir et prospérer sur un continent qui n'a pas connu la guerre. L'Afrique, comme la promesse d'un Eldorado. D'ailleurs, les 71 femmes inscrites au registre de bord se sont mises sur leur 31 pour cette nouvelle vie. Elles et leurs enfants, 19 au total, tous très jeunes, partent rejoindre leur mari. Les hommes, eux, mettent en avant leur décoration militaire ou leur statut. Ceux qui voyagent à bord du paquebot Afrique tiennent à être remarqués, c'est un peu the place to be, comme l'explique Luc Corlouer.
1920, on est juste début 1920, en janvier. La guerre est terminée depuis une grosse année et il y a des fonctionnaires, il y a des militaires, il y a des négociants, il y a des commerçants à amener vers l'Afrique. Et puis il y a des gens, il faut qu'ils reviennent d'Afrique, il faut qu'on amène des matières premières, il faut qu'on ramène du coton. Enfin, il faut absolument qu'il y ait des rotations. Le bateau doit tourner. Les premières et les secondes classes sont toutes utilisées et les passagers s'étonnent qu'il n'y ait personne dans les troisièmes classes. Ils vont vite avoir une explication puisqu'ils voient sur le quai environ 200 tirailleurs sénégalais qui arrivent pour embarquer. Des tirailleurs sénégalais qu'on avait oubliés.
Ces hommes noirs, qu'on surnomme les indigènes, alignés les uns derrière les autres sur le quai, portant des uniformes de l'armée française et qui embarquent en silence à bord du paquebot Afrique, sont en réalité les héros de la Grande Guerre, enfin des héros. Ce sont tous ceux qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, nom donné aux hommes noirs réquisitionnés dans les colonies d'Afrique, que ce soit en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Dahomey ou au Sénégal, pour aller soutenir l'effort de guerre français face à l'Allemagne. Eh bien, ils prennent le chemin du retour vers leur pays, leur famille, leur terre. Certains sont arrivés en métropole en 1913, d'autres beaucoup plus tard. Il y a ceux qui ont eu la chance de ne pas combattre, d'autres, en revanche, portent les traces de leurs blessures. Dans l'attente de leur retour, ils ont été parqués dans des camps dans le sud de la France. aujourd'hui, 200 d'entre eux repartent à bord du paquebot Afrique, mais ils n'ont droit aucun honneur. Pire, leur départ s'effectue dans l'anonymat le plus total, leur nom n'apparaissant même pas sur le manifeste de bord, comme s'ils faisaient partie des marchandises embarquées. Au micro de TV5 Monde, l'essayiste et spécialiste du travail de mémoire autour de l'esclavage, Karfa Diallo, explique pourquoi ces tirailleurs quittent la France en janvier 1920, si longtemps après la fin de la guerre.
Eh bien, il reste pour beaucoup d'entre eux après la guerre. Beaucoup n'échappent pas aux tranchées et à cette terrible boucherie de la Première Guerre. Donc certains d'entre eux, après la guerre, ils restent. Ils restent parce qu'ils sont blessés, ils restent parce qu'ils sont malades, ils restent aussi parce qu'on a besoin de bras et de forces pour la reconstruction du pays. Et c'est ainsi que certains d'entre eux vont rester un an, deux ans, et là, au bout de deux ans, ben, ils vont prendre ce bateau pour retourner vers l'Afrique.
Au même moment, loin de tous ces traumatismes, dans les luxueux salons de la première classe du paquebot, plusieurs hôtes de marque savourent le repas offert en leur honneur. Parmi ces personnalités, la plupart sont des administrateurs de la France coloniale. Il y a là des militaires gradés, on trouve aussi le trésorier payeur du Sénégal, et même le directeur des chemins de fer du Dahomey, un certain Louis Adenier. Peu avant son départ, ce dernier avait écrit une carte postale à l'intention d'un membre de sa famille à Dijon. Quelques lignes, quelques mots, au dos d'une photo de la proue du paquebot Afrique. Une manière pour lui de faire voyager ses proches et de leur dire au revoir. Comme l'avait la coutume de la compagnie des chargeurs réunie, le commandant Ledu a accueilli lui-même ses hôtes de première classe lors de leur arrivée sur le navire. C'est lui aussi qui a souhaité la bienvenue à un homme qu'il est difficile de ne pas remarquer, ne serait-ce que par sa tenue. Son physique, sa longue barbe, son aura et son charisme, c'est l'évêque Hyacinthe Jalabert, préfet apostolique du Sénégal, accompagné de 17 autres membres de l'église. C'est un peu le VIP de service ce jour-là. Dans ses valises, le prélat transporte l'argent que lui a donné le pape Benoît XV pour la construction de la cathédrale de Dakar. On parle ici d'une somme colossale, près de 100 000 francs, soit autant en euros d'aujourd'hui. Et la rumeur prétend que peu avant d'embarquer, l'évêque a fait transmettre un message pour demander au Saint-Père une bénédiction spéciale pour son voyage. Avec ça, il ne pourra rien arriver de fâcheux pendant la traversée. Dormez tranquille. Il est environ 19h ce vendredi 9 janvier 1920 lorsque le paquebot Afrique largue les amarres du quai des Chartrons à Bordeaux. Cap sur Dakar, donc, puis Conakry et Grand Bassam. Mais avant de rejoindre ces destinations exotiques, il faut remonter le chenal de la Gironde, un endroit dangereux pour un navire de cette taille. À la barre, le capitaine Ledu, attentif à tout relief ou lumière environnante, tente de manœuvrer son navire dans le chenal et d'éviter de se faire piéger par un banc de sable. Difficile de savoir à quoi il pense lorsque son navire s'enfonce dans la nuit noire. Sans doute à sa femme, Anne, enceinte de leur septième enfant. Parmi son équipage, certains marins ont promis à leur conjointe que ce serait là leur dernière traversée, eux qui ont parfois passé plus de temps en mer qu'avec leur famille. Effectivement, ce sera la dernière traversée. Dans un poème qu'il écrira par la suite, le peintre Paul-Émile Pajot illustre cette scène.
C'est le 9 janvier que partait Magnifique. De Bordeaux pour Dakar, le paquebot Afrique. Emportant dans ses flancs, avec leur espérance, plus de 600 personnes ayant quitté la France. Pour le beau Sénégal, splendide colonie, unie par de doux liens à la mère aux patries. Des soldats, des colons, avec des ouvriers, artisans, négociants, s'en allaient essaimer. Là-bas, tous heureux et fiers de la victoire. L'honneur, nom français, resplendissant de gloire.
Après une nuit passée à l'ancre, non loin du port du Verdon, à proximité de l'estuaire de la Gironde, de la Garonne, le paquebot Afrique rejoint l'océan le 10 janvier au matin, aux premières lueurs du jour. Mais les prévisions météo sont mauvaises, très mauvaises. Au poste de pilotage, le commandant Ledu constate en effet que la mer est déchaînée dans le golfe de Gascogne. Un vent de force 7 chahute le pont du navire et oblige tous les passagers à rester enfermés à l'intérieur de leur cabine. La houle fait tanguer le paquebot, provoquant mal de mer et nausées. les 285 passagers qui hier encore montaient avec panache à bord du navire à Bordeaux ont perdu le sourire. Quant au sort des 200 tirailleurs sénégalais mis à l'écart entre les passagers de troisième classe et les marchandises, personne ne s'en soucie, évidemment. Tout autour, le ciel est gris, couvert, menaçant. Mais comme si cela ne suffisait pas, les événements vont se précipiter, comme en témoignera par la suite le commandant second Eugène Corret.
Le même jour, vers 10h, le chef mécanicien Bélanger vint prévenir le commandant qu'une certaine quantité d'eau se trouvait dans les cales de chaufferie. Il demandait en même temps de faire une route qui diminue le roulis. Le commandant fit mettre la route debout à la mer et lui ordonna de diminuer l'allure des machines afin de ne pas fatiguer le navire, ce qui fut fait aussitôt. À ce moment, la hauteur de l'eau dans les chaufferies ne pouvait faire croire à une voie d'eau. La brise fraîchissait toujours. Le navire se comportait assez bien. Les pompes, mises en route, fonctionnaient normalement.
L'équipage tente de manœuvrer, en vain. Alors qu'en bas, dans les cales, les mécanos continuent d'écoper l'eau. Dans la soirée, la brise fraîchit de nouveau et la mer devient encore plus agitée. À minuit, le capitaine Ledoux reçoit un nouveau message du chef mécanicien. Les pompes ne parviennent plus à évacuer l'eau qui continue de s'infiltrer. Son niveau monte de manière inquiétante, sans que quiconque parmi les hommes de la chaufferie ou des membres de l'équipage ne parvienne à en trouver la cause. Dans les entrailles du navire, lampe à huile à la main, les marins tentent de se glisser à fond de cale pour trouver l'origine de la voie d'eau. Rien. Malmené par de violents coups de roulis et sans aucune visibilité environnante, le paquebot tente de maintenir son cap comme il peut. En bas, plusieurs plaques de parquet des chaufferies ont sauté. Malgré cette situation périlleuse, le commandant Ledoux garde son calme. Lui, le marin pragmatique originaire de Paimpol, sait qu'il lui faut patienter pour sortir de la tempête et ensuite tenter de réparer. Mais plus la nuit avance, plus le Ledoux doit se rendre à l'évidence, la tempête ne faiblit pas. En pleine nuit, le Ledoux réunit autour de lui les officiers et le maître d'équipage. Après délibération et vu l'état préoccupant du navire, le capitaine prend la décision de se dérouter pour rejoindre la Palisse, le port de La Rochelle. Il tente une première manœuvre sur bâbord, qui ne réussit pas. Puis une seconde sur tribord, qui l'amène cette fois en vent arrière. C'est à ce moment-là que le servomoteur du navire, pièce maîtresse qui commande les systèmes de direction, devient capricieux. Par instant, il ne fonctionne plus et rend alors l'Afrique totalement incontrôlable. Aux environs de 5h du matin, le dimanche 11 janvier, le commandant second Eugène Corret raconte.
Le navire avait pris une bande plus accentuée. La tempête s'était transformée en ouragan. À 7h du matin, le commandant lançait des appels de secours à Bordeaux et à Rochefort. Vers 7h30, la machine tribord stoppe. Les chaudières tribord sont éteintes par l'eau. Nous continuons notre route entre le nord et le nord-ouest, avec la machine bâbord au ralenti, car la pression est insuffisante, l'arrivée du charbon aux chaudières se faisant difficilement. Vers 9h, un radio du Ceylan nous annonce qu'il se porte à notre secours. Un deuxième radio de Rochefort nous informe que deux remorqueurs quitteront ce port vers 10h et se porteront à notre secours.
Suite au SOS lancé en morse par le commandant Ledoux, trois navires se portent au secours de l'Afrique. Deux remorqueurs, basés à Rochefort, sont les premiers à lever l'ancre. Mais ils ne sont pas assez puissants pour faire face à la forte houle et ses creux de 10 mètres. Le Cèdre et la Victoire sont donc contraints très vite de renoncer. Seul reste un navire en mer, le Ceylan. Lui aussi, propriété de la compagnie des chargeurs réunis, ce paquebot est encore plus grand que l'Afrique. Parti également de Bordeaux, il fait route lui vers Buenos Aires, en Argentine. Il lui faut près de 3h pour faire machine arrière et rejoindre la zone où l'Afrique a déclaré sa position. Mais la visibilité est quasi nulle. Et dans cette mer déchaînée, le commandant Jouan, à la tête du Ceylan, doit rester à distance pour éviter toute collision. Au même moment, dans les cabines du paquebot Afrique, les passagers qui n'ont pas dormi de la nuit souffrent toujours du mal de mer et probablement beaucoup de peur. Beaucoup, parmi eux, ont oublié tout rêve de rejoindre le continent noir. Et à défaut, ils veulent juste regagner la Terre. Non loin, l'évêque Hyacinthe Jalabert réunit autour de lui les 17 ecclésiastiques qui l'accompagnent. Ensemble, ils se mettent à prier pour le salut du paquebot. À la barre, le commandant Ledu lui fait face à la réalité et cherche les moyens rationnels de se sortir de ce mauvais pas. Il sait que le véritable danger se trouve devant lui. À quelques milles nautiques, là, au large de l'île de Ré, des côtes de la Vendée, se trouve en effet le plateau de Rochebonne. Une zone de récif où la profondeur n'excède pas 3 à 5 mètres et qui peut donc déchiqueter la coque de n'importe quel navire. Bateau à l'agonie, bousculé par les vagues, chahuté par le vent, l'Afrique fonce malgré lui vers ce danger mortel. Désormais, seule une accalmie de la météo sauvera l'Afrique. L'évêque n'a qu'à prier.
Silence, souffle, silence, ce souffle, il défile sur mon front les orages, les éclairs. À la craie, sur un fil, on devine des messages, des tonnerres secrets. La tempête fait rage et de l'eau glisse sur mon visage. Il y a mille nuages que nul ne peut mettre en cage, mettre en cage, mettre en cage. La tempête fait rage.
Inter, affaires sensibles.
Dimanche 11 janvier 1920, 21h30, golfe de Gascogne, à une trentaine de kilomètres à peine des côtes de Vendée, nuit noire, mer déchaînée. Dans les cales du paquebot Afrique, une partie de la salle des machines est désormais inondée. Les mécaniciens qui avaient de l'eau au niveau des mollets l'après-midi même en ont maintenant jusqu'au ventre et doivent évacuer. Dans les instants qui suivent, la chaudière qui faisait tourner le deuxième moteur s'arrête. Privé de tout moyen de propulsion, le paquebot Afrique se retrouve à la dérive, la force du courant l'entraînant de plus en plus et inexorablement près du plateau de Rochebonne et de ses récifs. À quelques centaines de mètres à peine, le second paquebot qui s'est porté à son secours, le Ceylan, a perdu son contact visuel. Et lui aussi est en difficulté. De l'eau de mer a réussi à s'infiltrer par la haute cheminée. La faute à cette météo dantesque. Plus tard, le capitaine Jouan racontera que le piano du salon de la première classe a brisé ses fers, s'en est allé heurter le plafond et a défoncé les banquettes qui se trouvaient autour. À la barre du Ceylan, le capitaine Jouan comprend que s'il ne s'écarte pas, il risque soit de rentrer en collision avec l'Afrique, soit de se retrouver lui aussi projeté vers Rochebonne. Après un échange avec le capitaine Ledu, Jouan prend alors la décision crève-cœur, terrible, d'abandonner son assistance pour ne pas mettre en danger son propre navire, son équipage, ses passagers. Alors, vers 22h, le Ceylan pousse ses machines à fond et prend la direction du port de La Rochelle. Le paquebot Afrique est désormais seul, livré à lui-même. À la barre, le commandant Ledu ne laisse rien paraître. Au loin, la silhouette lumineuse du bateau phare se rapproche au fil des minutes. À bord de l'Afrique, il n'y a plus aucune lumière. Seules les quelques lampes à huile et à pétrole permettent d'éclairer les travées et les salons. La suite, c'est Roland Mornay qui la raconte dans son livre.
Les passagers, mais ils étaient tous, presque tous, anéantis par le mal de mer. Mais ils ont dû se rendre compte quand même qu'il y avait quelque chose pour la plupart. Tout d'abord, il n'y avait pas d'embarcation pour tout le monde. À l'époque, c'était admis. Il y avait des ceintures de sauvetage, mais il n'y avait pas assez de canots. Les canots, c'était pour les blancs. C'était comme ça. La voie d'eau s'est aggravée, le mauvais temps s'est aggravé également. Et à un moment, ils ont passé au-dessus du plateau de Rochebonne, entre les roches. Hein. Ils ont, heureusement, parce que là, c'était fini de l'Afrique. Et par malchance, ils sont venus aborder un bateau phare qui ressemblait plutôt à une grosse bouée, qui était la longueur de ce bateau phare faisait la largeur de l'Afrique. Et dans le mauvais temps, c'était comme un duel à mort, comme deux bretteurs maladroits. Le bateau phare s'écartait, revenait frapper l'Afrique, et ça durait 7 à 8 minutes.
À vos risques et périls, la pancarte sur l'Afrique à l'entrée disait vrai. La collision avec le bateau phare provoque une importante voie d'eau. L'Afrique, déjà partiellement inondée dans la salle des machines, plonge alors vers l'avant. À 2h du matin, le commandant Ledu donne l'ordre aux marins d'évacuer et de préparer les baleinières, ces petites embarcations de sauvetage en bois et à rames. Puis Ledu lance un nouveau SOS amorce à l'intention de la côte. Le commandant est malgré tout conscient que personne ne pourra se porter à son secours. En pleine tempête, la descente des baleinières, ces petits canots de sauvetage, à la grue, est rendue presque impossible. Certaines d'entre elles sont arrachées par le vent, d'autres, à peine descendues, sont renversées par les flots. En désespoir de cause, certains passagers se jettent à la mer pour rejoindre les petites embarcations. Les femmes et les enfants restent à bord dans l'espoir de pouvoir embarquer dans l'une de ces frêles esquifes qui restent encore sur le pont. Le documentariste Daniel Duhan raconte.
Au milieu de la tempête, avec des vagues qui font plus de 15 mètres de hauteur, les premiers passagers qui osent descendre dans les canots se font éjecter et tombent à la mer. Les gens qui étaient restés à bord se noieront avec le bateau.
Pour manœuvrer un canot, en effet, il faut une dizaine de membres d'équipage, ce qui limite le nombre de passagers qu'on peut embarquer. Parmi ceux qui comprennent qu'ils n'auront pas de place à bord, il y a bien sûr les tirailleurs sénégalais, 2200. Remontés sur le pont, ces hommes qui ont connu l'enfer du feu et des bombes à Verdun dans la Somme, découvrent la furie des mers. Eux qui ne savent pas nager se jettent à l'eau. Ils tentent de s'accrocher à tout ce qui flotte. D'autres, terrifiés, restent à bord. Dans le salon de la première classe, l'évêque Jalabert, imperturbable, continue ses prières. Autour de lui, les religieux ont disposé des cierges. Alors un à un, les passagers viennent se repentir et lui réclament l'absolution, histoire de mourir la conscience tranquille. L'évêque ne se fait pas prier et absout à tour de bras. Luc Corlouer, dont le grand-père était le chef d'équipage du paquebot, racontera la suite.
Et alors là, le commandant Letu ordonne au Bosco et à ses officiers, leur ordonne d'évacuer le bateau coûte que coûte. Lui, il reste à sa barre, avec l'archevêque de Dakar, d'ailleurs, Mgr Jalabert. Ils prient tous les deux, et le Bosco sera le dernier à sauter à l'eau. Il saute à l'eau, il ne saute pas dans une embarcation. Et il se dirige vers une embarcation où des gens viennent le chercher. Mais c'est une vision d'horreur et qui va lui rester toute sa vie. Ce bateau noir, sous le projecteur du Ceylan, s'enfoncer dans l'eau. On est le 12 janvier et l'eau, elle doit être à 9-10 degrés. Et on raconte, mais je crois que c'est une légende, mais il faut que je vous le dise, ils ont raconté que lorsqu'ils étaient dans la baleinière, ils voient le bateau s'enfoncer, les cris des gens, les bruits des tôles, une vision dantesque. Et à ce moment-là, lorsque le bateau est englouti, les derniers remous arrêtés, eh bien l'ouragan stop. La tempête est terminée. Comme si l'océan avait eu son tribut.
Dans la journée du lundi 12 janvier, plusieurs navires, dont le paquebot Ceylan du commandant Jouan, repêchent des survivants de la catastrophe. Là, on récupère 9 hommes d'équipage sur une chaloupe. Plus loin, 13 tirailleurs sénégalais accrochés à une sorte de radeau. L'un d'eux, exténué en hypothermie, décédera quelques heures plus tard. Seule la baleinière numéro 5, avec une dizaine de personnes à son bord, a réussi à rejoindre la côte. À son bord, des membres de l'équipage et un seul passager. Tous sont pris en charge et envoyés à l'hôtel Terminus, au Sable d'Olonne. Au total, sur les 602 personnes qui avaient pris place à bord du paquebot L'Afrique lors de son départ, 2 jours plus tôt, de Bordeaux, seules 34 reviennent vivantes. Parmi eux, un seul passager civil, une dizaine de tirailleurs, le reste étant des membres d'équipage. Aucune des 75 femmes, ni aucun des 11 enfants qui se trouvaient à bord n'en réchapperont. Dans les heures qui suivent, les premiers témoignages des survivants évoquent un naufrage sur les récifs de Rochebonne. Personne ne mentionne alors la collision entre le paquebot et le bateau phare. Pire, certains quotidiens régionaux estiment à la baisse le nombre des morts. Un journaliste affirmera même dans son article que le commandant Ledu serait vivant. En réalité, en marin expérimenté, venu de Bretagne, mère patrie et patrie de la mer, il a respecté jusqu'au bout le code de la marine marchande, il n'a pas abandonné son navire et il a coulé avec lui dans cette nuit d'horreur dans le golfe de Gascogne. Au Sable d'Olonne, des informations contradictoires circulent sur l'identité des survivants et sur ce qui s'est passé la mer en veille, la veille en mer. Ce sont les témoignages de deux des survivants, le commandant second Eugène Corret et le deuxième lieutenant Jean-Baptiste Thibault, qui vont permettre de comprendre ce qui s'est réellement passé. Le naufrage du paquebot Afrique est un drame qui endeuille des centaines de familles et les habitants de toute une région. Une tragédie hors norme par son ampleur et par sa localisation. Rendez-vous compte, à seulement 40 km des côtes. Un drame qui pourtant va être très vite oublié par la presse et l'opinion.
Every time you call around, We talk about it all night long. We define our moral ground. But when I crawl into your arms, everything, it comes tumbling down. Come sail your ships around me and burn your bridges. Every time you come around, your face is falling sad now, for you know the time is nigh. When I must remove your wings and you must try.
Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui, le naufrage du paquebot Afrique dont nous allons parler avec notre invité Roland Mornay qui est à La Rochelle. Voilà, je vais chercher la ville. À La Rochelle. Bonjour.
Oui, bonjour.
Capitaine au long cours à la retraite, ancien marin pêcheur, ancien commandant sur des navires de l'IFREMER, c'est l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Vous épluchez depuis 20 ans les archives, les bibliothèques pour retrouver et synthétiser toutes les informations qui existent sur ce naufrage de l'Afrique. Alors, documents météo, articles de presse de l'époque, enquêtes, archives qui vous ont permis d'écrire le seul livre consacré à cette affaire, livre intitulé La tragédie du paquebot Afrique, réédité en 2019 aux éditions Le Geste. Alors, évidemment, ce qu'ont vécu ces gens-là est épouvantable. Un bateau qui va couler, qui penche vers l'avant, c'est le vertige de la mort annoncée. Ça nous rappelle le Titanic dont on nous a parlé sous toutes les coutures, jusqu'à plus soif. Pourquoi celui-là, ce naufrage-là, l'Afrique est-il presque oublié? Je dis presque, que ne serait-ce que grâce à vous, il l'est pas complètement.
Oui, plusieurs choses. C'est arrivé peu de temps après la Grande Guerre. Il y avait énormément de morts. On était un peu lassés de tout cela. Il n'y avait pas à bord du navire. Or, le Yassine Jalabert, l'évêque, il n'y avait pas de passagers de distinction. On appelait comme ça. Il n'y avait pas d'artistes. Il n'y avait pas d'acteurs. Certes, il y avait des personnes d'un certain niveau, des militaires, des hauts fonctionnaires.
Mais pas de gens connus, quoi.
Pas de gens véritablement connus. Or l'évêque, c'est l'évêque qui fera parler de, j'allais dire à l'insu de son plein gré, pour parler comme un cycliste, mais c'est lui qui a fait parler de l'Afrique. Alors, c'était oublié aussi par le fait que c'est arrivé pendant une période électorale. C'est au moment où Deschanel a battu Clémenceau. Et alors là, tous les journaux nationaux, certains ne mentionnaient pas l'Afrique, les journaux anglais en parlaient plus que les journaux français, donc ça a occulté l'affaire. Il y a aussi le fait que le Titanic a fait de l'ombre à l'Afrique. Cela peut se dire ainsi.
Ah, c'est-à-dire
Mais je parlais avec beaucoup de personnes, de familles de victimes, je les ai fait parler. Une dame me disait par exemple que quand elle disait que sa grand-mère avait disparu à bord de l'Afrique, tout de suite on lui parlait du Titanic. Et moi je l'ai constaté aussi dans les salons du livre, j'avais une grande photo du bateau. Aussitôt je demandais aux personnes, vous connaissez ? Pas du tout, et dans la minute on me parlait du Titanic.
Oui, voilà,
c'est une des raisons pour lesquelles on a oublié l'Afrique.
Et c'est pour ça que vous avez voulu écrire ce livre aussi, pour que ça tombe pas dans l'oubli, justement.
Oui, alors oui, moi j'ai vécu dans le naufrage comme d'autres vivent dans le péché. Je suis un ancien marin. J'ai vu une vieille femme pleurer parce que j'avais pas 4 ans suite à un naufrage. Je venais de perdre ses deux fils. Mmh. J'ai toujours été marqué par cela. Et quand il y a un naufrage, j'aime bien savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment on en est venu là, et j'étudie tous les aspects, la carrière du capitaine, de la météo, enfin comme vous dites tous les côtés.
Les facteurs,
de l'affaire,
tous les facteurs. Et en tant qu'ancien marin, vous avez déjà eu à affronter des tempêtes aussi, des tempêtes j'imagine, mais aussi violentes que celle de la nuit du 11 ou 12 janvier 1920, dont on peut se sortir d'ailleurs. Mais vous avez eu à affronter ça, vous ?
Ah ben oui, je n'ai pas navigué dans une bassine quand même.
Non, mais
pendant 37 ans.
Non, mais aussi fort, oui.
Oui, le gros mauvais temps dont je me souviens, 12 juillet 1961. Alors ça avait été terrible, les navires de pêche qui avaient coulé, et nous on avait été en difficulté.
Et vous étiez sur quel genre de bateau, là?
C'est un tonnier. À l'époque, j'étais novice. Hein, j'avais tout juste 16 ans. Mmh. Et puis, enfin, je suis toujours là, mais je m'en souviens tous les ans, tous les 12 juillet, je m'en rappelle.
Les creux de 10 mètres, c'est haut comme un immeuble. Enfin, c'est énorme. Enfin, c'est énorme.
C'est difficile à dire pour la hauteur des vagues. On a du mal à s'imaginer quand l'Afrique a coulé. Alors, je ne sais pas quel était exactement le creux, là. Mais l'Afrique, ça m'a demandé quand même plusieurs années de recherche. Quoi, et j'ai beaucoup appris, non pas avec les familles de victimes, mais surtout pour ce qu'elles étaient devenues, l'histoire de leur famille. Mais autrement, sur le drame de l'Afrique, ces personnes ne connaissaient rien. Quand c'était des petits-enfants, et bien tout simplement, quand il y avait eu les enfants rescapés, les enfants n'en parlaient pas. C'était l'époque, il ne fallait rien dire aux gosses. Quoi. Je pense que c'est cela. Mais j'ai connu environ 80 personnes qui sont venues, d'ailleurs, pour le centenaire la cérémonie à l'occasion du centenaire, dernièrement, en 2020. Et puis aussi à l'inauguration de la stèle, il y a une stèle au Sable d'Olonne, au mémorial des péris en mer. Et là, il y avait environ aussi 80 personnes, de familles de victimes, dont une partie du commandant Ledu.
Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ressemble en mer cette zone du plateau de Rochebonne, là où précisément l'Afrique a fait naufrage? Alors j'imagine que c'est tout aussi délicat aujourd'hui, hein. La nature reste ce qu'elle était il y a un siècle.
Oui, le plateau de Rochebonne, c'est une ligne de récifs avec des têtes que, vous l'avez dit, la Congrée, qui culmine à 3,30 m de la surface, Roche-Chemin, Pierre Levé. Alors à l'époque, je l'écris, l'hydrographie du plateau était complètement fausse. La position, les coordonnées géographiques, mais ça le commandant Ledu ne le savait pas. Mmh. Et moi, l'Afrique est passée entre les pierres levées et une tête de roche et la Congrée. La Congrée qui, heureusement, parce que l'Afrique aurait touché sur Rochebonne, ça en aurait été fini de l'Afrique dans la minute qui aurait suivi. Mmh. Et donc l'Afrique a bien abordé ce bateau-feu, qui signalait, ce bateau-phare, on est aussi bateau-feu, qui signalait le plateau de Rochebonne. Alors, comme on dit des commentateurs, cet instrument qui devait sauver et qui devient un instrument de mort.
Ah oui, en l'occurrence, oui, effectivement.
Oui.
Roland Morvay, on ne quittait pas surtout, on se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Pete Doherty et Fred Lord, The Fantasy Life of Poetry and Crime.
High plains drift, slight shape shift across the mind. time in the estuary. There's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime. Hold Normandy and Saint Maritime in the fantasy life of poetry and crime. Have I begun this too weirdly in the estuary? Oh, there's a clue to find in the fantasy life of poetry and crime. Chainsaws grind in the summertime. Bells they chime.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Alors, mon œil, il y a quelque chose qui est étonnant quand même, c'est que ce paquebot Afrique faisait partie, un des fleurons de la compagnie des chargeurs réunis. Et pourtant, il y a une première voie d'eau, mais très vite. Hein. D'ailleurs, on disait qu'il était fuiteux.
Non. Fleuron, non, parce que c'était pas le 119 mètres, c'était pas le plus grand. Il y avait d'autres, il y avait des paquebots plus grands à la compagnie des chargeurs unis. Mais la voie d'eau, elle a une cause, forcément. On n'en a pas parlé, là. Il manquait une bouée à l'estuaire de la Gironde, une bouée, ce qu'on appelle au point tournant. Il y avait un changement de route, et cette bouée était déradée, n'existait plus. Ça, le commandant le savait, mais je pense que c'est la première raison de la voie d'eau. Je pense que l'Afrique est passée un petit peu à l'écart de sa route habituelle et qu'il a touché une épave de la guerre 14-18. Parce que les Allemands, pendant la guerre 14-18, jusqu'à la fin de l'année 1917, venaient dans l'estuaire de la Gironde. Et il y a plusieurs bateaux de suspects, enfin susceptibles, d'avoir été la cause de la voie d'eau de l'Afrique. Parce que la voie d'eau est annoncée vers 9h par le chef mécanicien, enfin la voie d'eau, la rentrée d'eau.
Oui.
Et dans les navires suspects, je pense, la Vendée qui était coulée au milieu de la passe, la Vendée qui était un cargo anglais, son nom ne l'indique pas. Alors je ne peux pas dire que la Vendée a coulé l'Afrique. Il y avait le mar Adriatico, les mâts apparaissaient à marée basse, il y avait le Québec et d'autres naufrages juste avant la guerre, l'Espagna et Raphaël. Et voilà. Et on le verra sans doute par la suite, vous vous rencontrez certainement, la voie d'eau du Lutetia. Le Lutetia, qui, si, ça sera peut-être pour demain cela, qui lui, ben, la même chose, sortir de la Gironde, le chef mécanicien appelle le commandant à la passerelle, il y a de l'eau à la machine. Et là, le navire est retourné, le Lutetia, c'était moins de 2 ans après l'Afrique, c'était le 8 décembre 1922, et là on s'est aperçu qu'il y avait une voie d'eau, comme une estafilade sous la coque, et on a pensé donc que ce bateau avait touché des vestiges d'épaves de la guerre 14-18. Alors, il y a des écrits, hein, c'est écrit, ces épaves, on avait les moyens techniques soit de les araser, ou quelquefois de les renflouer, mais ça coûtait trop cher.
Ah, donc on a laissé, quoi.
Voilà. Ah bon, on les pétardait, c'est-à-dire on le faisait sauter, mais la ferraille ne se dissout pas dans l'eau, au moins pas pendant quelques années, quoi. Voilà.
D'accord.
Et on, oui.
Non, mais dans votre livre, pour qu'on ait le temps d'aborder ça aussi, vous expliquez que l'un des grands drames de cette histoire, c'est qu'en 1920, à bord de navire, on ne dispose pas de tout le matériel nécessaire pour évacuer, il n'y a pas assez de chaloupes, hein, on a besoin
de chaloupes. De baleinières, oui, il y en a pas assez pour tout le monde. Je l'ai vu dans d'autres naufrages, et les ceintures de sauvetage, comme on disait à l'époque, les brassières de sauvetage, souvent au bout de quelques heures, finalement, elles entraînaient les hommes vers le fond. Elles s'imbibaient, elles n'avaient pas la qualité comme actuellement. Elles étaient pour quelques heures, mais autrement, au contraire, elles entraînaient l'homme qui la portait, ou la femme, vers le fond. Et donc, dans des conditions de temps, de mer, où a coulé l'Afrique, je le dis, à l'acmé du gros temps, hein, du mauvais temps, en pleine nuit, et au moment où il a fait le plus mauvais temps. Et le vent n'a molli qu'au jour.
C'est marqué à vos risques et périls, quand on arrive les bateaux. Mais c'est saisissant, ça, à vos risques et périls. C'est vraiment le marqueur d'une époque.
C'est une formule. Hein, quant à la compagnie Marche ou Crève, d'autres compagnies pouvaient mériter cela. Il y avait la compagnie Borde, attention. C'était pas ces gens-là, voilà, il fallait y aller, hein, c'était pas des philanthropes, voilà ce que je veux dire.
Bon, écoutez, on va en garder pour demain, puisqu'on arrive à la fin de l'émission, puis on se dit à demain pour la suite de cette histoire. Merci.
C'est moi qui vous remercie.
À demain.
À demain.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le naufrage du navire Afrique, premier épisode, le second ce sera donc demain, une émission que vous pouvez réécouter en attendant en podcast sur le site de France Inter ou sur l'appli Radio France. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé.